48 FM Le Mag. Culture,
logement,
environnement,
cuisine, gastronomie.
48 FM.
Emploi, développement économique,
vie associative,
tourisme,
rubrique pratique.
48 FM Le Mag.
Sport, nature, TIC,
citoyenneté,
patrimoine.
Bonjour à tous, on se retrouve donc pour un nouveau mag ce mardi 7 janvier. Donc bienvenue à nos invités, bienvenue à Nico.
Salut.
Première Marie. Émission de l'année.
Eh oui.
Ah, tu peux souhaiter bonne année à nos auditeurs.
Bonne année à tous.
Même moi,
bonne
ça y est, c'est déjà
à
fait.
À nos invités.
À nos invités, tous nos vœux.
Ravi de vous retrouver pour ce nouveau mag 2014.
Donc nos invités, justement, je vais vous les présenter et puis je vais leur demander de se présenter. Donc notre première invitée, c'est Madame Pierron, qui est sophrologue. Bonjour madame.
Bonjour madame. Meilleurs vœux à tous les auditeurs et une bonne santé et plein de bonnes choses pour 2014.
Très bien, donc on parlera avec vous de donc de l'association des parents d'élèves de Saint-Privat.
Oui, du collège Saint-Privat à Mende. Bonjour.
Bonjour à tous. Donc merci de nous avoir rejoints donc pour ce premier mag et donc je vais commencer avec vous madame Pierron. Donc vous êtes sophrologue ?
Oui.
Qu'est-ce
tout
que c'est
fait.
Que être sophrologue ?
La sophrologie, ça consiste à se
Pardon, pas de souci. On vous écoute. En quoi consiste la sophrologie ? Oh là là, on lui change de micro, on la perturbe, on n'est vraiment pas sympa avec vous. Allez-y. Qu'est-ce que la sophrologie ?
Voilà. Donc, c'est une méthode créée par Alfonso Caicedo,
oui.
Un neuropsychiatre né en 1932.
Oui.
Il a créé ce mot-là en 1960.
D'accord, mais en quoi ça consiste ?
Ça consiste en quoi ? En de la relaxation, okay. Basée surtout sur de la respiration.
D'accord. Donc, on vient vous voir, en fait, pour apprendre à
gérer certaines situations, comme le stress, d'accord. Comme beaucoup de personnes souffrent de stress. On travaille sur cette problématique grâce à la respiration, à apprendre à se relâcher musculaire, les muscles, et à se détendre.
D'accord.
Et ensuite, on visualise un paysage, par exemple, où on apprend à se ressourcer pour revenir dans ce monde présent avec un nouveau regard.
D'accord, retrouver du calme, de la sérénité pour pouvoir affronter une situation stressante.
Ou angoissante, pour gérer ses émotions.
D'accord. Et qui est-ce qui peut faire ça, en fait ? On peut le faire quand on est adulte, quand on est enfant, dans quelle situation est-ce que... On va pouvoir pratiquer ce type de relaxation.
La sophrologie s'adresse à toute personne.
D'accord.
Des futurs parents, par exemple.
Oui.
Quand ils ont
qui sont inquiets, ouais, d'avoir leur premier enfant.
Voilà.
Par exemple, c'est
disons qu'ils programment donc une naissance.
Oui.
Et pour accueillir ce nouveau bébé, ils se mettent en situation. Ils font un travail sur eux-mêmes. Ils essayent de prendre des repères, parce que accueillir un bébé, ça pose parfois des questions.
D'accord.
Ça permet aussi de se remettre en question, oui. Sur soi. Et quand on fait un travail sur soi, on accepte donc cette mise en place.
Donc la maman, le papa,
tous les deux,
les frères et sœurs peuvent
intervenir, au contraire. Moi, d'accord. Je trouve que ça crée des liens, et ces liens-là sont plus forts, et... Déjà, au départ, on accueille la maman à partir du troisième mois.
D'accord.
Parce que là, on sait que le bébé est en route. Là, la maman, elle a des angoisses, elle a des stress, elle se sent fatiguée. Elle a, par exemple, aussi des nausées, elle dort mal. Et le fait d'avoir aussi certaines douleurs, la sophrologie, grâce à la respiration, ça lui permet de se détendre, de se relâcher et en... Plus le fait d'être... Et la respiration. La respiration, elle s'adapte au fur et à mesure de sa grossesse.
D'accord.
Et en même temps, elle se voit en situation. Et quand le jour J arrive, elle a les éléments, les outils qu'il faut. Parfois, les sophrologues assistent avec le papa à l'accouchement. Mais d'accord. Nous sommes là pour accompagner. Il y a les sages-femmes.
Bien sûr.
Nous sommes là pour épauler la sage-femme. Nous ne sommes pas...
Mais pas pour accoucher.
Non, nous accouchons pas non
ah bon,
plus.
Parce que non, c'est sophrologue se mettre à faire les accouchements.
Le papa non plus.
Non,
mais là aussi, on n'accouche pas non plus.
Voilà. Ah bon, quand on arrive dans la salle de préparation, parce qu'on a.
Moi, j'ai fait des bêtises, moi, quand j'ai accouché, alors ma femme. Ils m'ont laissé seul dans la salle, j'étais obligé de tout faire.
C'est pour ça que t'as eu que des garçons.
Ouais, mais j'avais fait avant de la sophrologie, si tu veux, ça m'a beaucoup aidé.
Oui.
Ah, le laissez pas vous déstabiliser.
Non, non,
ah, pardon, quand on attend des enfants, il y a d'autres moments de la vie ou
après, bien,
cas.
Disons que quand le bébé est arrivé, avant l'accouchement, le papa peut venir aussi aux dernières séances parce que là, il peut gérer la situation. Parce que des fois, la maman, même si elle est préparée depuis le troisième mois, il arrive que dans ces cas d'urgence, on perd ses moyens. Le papa est là pour le mari, j'entends bien, est là pour soulager, pour lui donner les outils, lui la calmer, et de l'amener à plus de sérénité et de calme.
D'accord. Mais moi, ce que je voulais savoir aussi, c'était en dehors de la période de grossesse, en fait, on peut quand même faire de la sophrologie, même
oui,
si on n'attend pas
d'enfant. Oui, tout à fait. Et une fois quand le bébé est là aussi, on peut, la maman, elle peut continuer une fois au postpartum. Une fois que le bébé est là, la maman, elle apprend à habiter son corps de mère, parce que le corps d'une maman n'est plus le corps d'une jeune fille. Mmh. Et ensuite, elle accepte ce rôle de maman. Et en plus, le bébé peut participer à ces moments de détente. Et en plus, quand les parents sont détendus, le bébé est plus calme. Et comme les enfants sont des buvards, et ben, quand les parents sont détendus, ben, la relation est meilleure. Et puis, les nuits sont sereines, donc moins de fatigue.
D'accord, très bien.
Ensuite, quand les enfants grandissent,
oui.
À chaque étape de la vie, les enfants rencontrent des difficultés. Par exemple, quand ils sont tout plus jeunes, on peut le faire, mais là, c'est ludique. Ça se passe au niveau du jeu, parce que les enfants n'ont pas d'objectif. Mais ça leur permet de sentir leur corps et de ressentir le corps. C'est très important, et d'être plus présent et de laisser le mental au repos. Mais ça, quand on est enfant, on y est moins. Ensuite, quand on arrive à la scolarité, quand les enfants entre 6 et 7 ans, là, les enfants apprennent à ressentir leur corps, à être plus présent en classe, à gérer certaines angoisses, à reprendre confiance en leurs possibilités. Et souvent, quand on n'est plus ces enfants-là, des fois, ils ont des peurs, ils ont des angoisses. Et en sophrologie, cette démarche-là leur permet de poser...
Et vous en voyez beaucoup, vous, des enfants ?
Oui, j'en ai eu deux, au mois de septembre jusqu'au mois de décembre.
Parce qu'on dit en fait que beaucoup d'enfants sont très stressés, notamment.
Très stressés, très angoissés, ouais. Et beaucoup de peur. Parce qu'ils ont du mal à dormir la nuit, ils ont peur qu'il y ait des monstres. Donc, ça leur permet de se recentrer, de se calmer, et de se refaire confiance en eux, avec les parents, de poser des mots. Parce que souvent, quand les enfants ont peur, ils n'arrivent pas à se situer. Ils n'arrivent pas à exprimer leurs angoisses, pourquoi ils ont peur, qu'est-ce qui leur fait peur. Et avec la sophrologie, ça leur permet...
Puis aussi avec une personne tierce, ça peut être intéressant.
Et en même temps, ça permet aussi aux parents d'être plus à l'écoute de l'enfant, parce que comme dans ce genre de démarche, je reçois l'enfant, et puis après, je demande à ce que la maman ou le papa interviennent. Comme ça permet au papa et à la maman d'entendre ce qui se passe pendant la séance et en même temps de reprojeter après avec leur enfant quand ils sont angoissés ou quand ils se sentent amoureux.
Elle pourrait être intéressante dans le cadre du milieu scolaire par rapport aux interventions des milieux scolaires, des nouveaux rythmes scolaires, pouvoir former des enseignants sur la sophrologie.
Entre autres, voilà, oui, surtout quand les enfants sont très turbulents, quand ils ont manque de concentration, quand ils sont très fatigués aussi. Voilà, et puis ça leur permet, la sophrologie, de garder encore leur âme d'enfant, parce qu'on a tendance à vouloir leur en demander beaucoup à nos enfants aujourd'hui. Et on voudrait les responsabiliser alors que ce sont encore que des enfants.
Ça pourrait être une idée donc à proposer dans le cadre
oui,
des nouveaux rythmes.
Oui, pourquoi pas. Oui, puis ça se fait de plus en plus dans certains milieux scolaires.
Et oui, non, mais c'est une bonne idée.
Peut-être aussi pour les bacheliers. Bon, là, on n'est plus vraiment
oui,
sur
voilà
l'enfance.
Voilà aussi.
On a la
pour
fin
les
d'enfance.
Adolescents aussi. Pour les préadolescents, parce que les préadolescents aussi, ils sont dans l'affrontement. Ils cherchent à avoir toujours raison. Et puis,
ils se cherchent, oui.
Ils se cherchent. Et puis, comme ils le vivent mal, et bien, ma foi, ils sont dans la... Ils sont fougueux. Des fois, ils disent des choses, et ils ont des paroles, Et parfois, ça sort de l'ordre, c'est parce qu'ils sont dans l'émotion.
Et pour les enseignants, ce serait pas bien aussi un peu de faire une sophrologie ? De respirer des fois quand on a un enfant un peu turbulent en face de soi ou une classe.
Oui, aussi pour les enseignants, quand ils rencontrent des difficultés, certains stress, parce que aussi quand les...
C'est beaucoup de stress être enseignant.
Oui, beaucoup parce que dans les classes aussi, les enfants bougent beaucoup, ils remuent beaucoup. Ils ont tendance à vouloir toucher un stylo, faire tomber des affaires. Ils ont du mal à rester concentrés. Eh bien, là aussi, ça peut leur permettre d'inspirer, de souffler et trouver une technique. Parce que aussi, on leur donne des techniques aussi. Quand les enfants n'arrivent plus à se concentrer, moi, ce que j'ai dit à un des deux petits garçons que j'avais, c'est que quand tu te sens que tu bouges, que tu te concentres, tu inspires, tu bloques la respiration, tu prends ton poignet ou un truc sur son corps, par exemple, croiser les doigts ou tout. Tu inspires, tu te concentres sur ce que tu ressens là, tu vas souffler longuement et jusqu'à ce que le calme revienne.
Calme-toi, Rudy.
Et en même temps, quand le calme revient, ben l'enfant, en même temps, il entend la maîtresse, il se concentre sur ce qui se passe dans lui et en même temps, cette émotion qui le traverse, au lieu de la combattre, eh ben, il la laisse passer rien qu'avec la respiration.
À vous écouter, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'au début de chaque cours, on fasse respirer les enfants,
entre autres,
se calmer après la récré, par exemple.
Voilà.
Refaire un petit...
Oui, des exercices, des tensions. Par exemple, des fois, on a des tensions dans la nuque, dans les épaules. On inspire, on bloque, on active les épaules. Là, on souffle et on relâche. Et là, on ressent qu'il y a de la détente dans le corps qui s'apaise. Et en même temps, on fait des respirations. Et les enfants en prennent en classe. Ça se passe.
Ça se passe mieux.
On a une sensation directe.
Voilà, nous, on apprend aussi.
Voilà, vous pouvez le faire, même ici. Voilà,
alors,
vous
Madame inspirez, Pierron,
vous bloquez, oui.
Madame Pierron, quelle est votre formation, en fait, pour aujourd'hui être sophrologue ? Qu'est-ce qu'il faut faire ?
Qu'est-ce que j'ai fait ? Bien, disons que j'ai eu un cursus scolaire normal, comme tout le monde. J'ai pianoté sur Internet des adresses de sophrologie. Et un jour, j'ai trouvé l'école à l'IFS Paris 10e, chez Catherine Aliota. Je me suis inscrite. J'ai fait une sélection. Comme j'étais sur Bordeaux à l'époque, ça s'est passé par téléphone. Et selon la motivation que je lui ai apportée à Madame Aliota, elle m'a inscrite et je suis allée régulièrement faire cette formation sur Paris.
Qui a duré combien de temps ?
Moi, c'était un cycle particulier. J'ai fait un cycle accéléré.
D'accord. Mais sinon, il faut combien de temps à peu
Normalement, sur une année scolaire.
D'accord.
Enfin, ça dépend. Il y a des personnes qui sont... C'est le rythme de la personne. Voilà. Mais normalement, c'est sur un an.
Donc, vous avez été apprendre auprès de cette dame.
Avec d'autres.
Voilà, avec d'autres. Voilà. Et puis ensuite, le public aujourd'hui, les Mandois, peuvent venir vous voir que vous leur appreniez comment justement...
Je reçois des personnes en séance individuelle.
Très bien.
À Saint-Denis.
Et c'est remboursé par la Sécu, ça, non ?
Ah non, malheureusement, c'est pas remboursé par la Sécurité sociale. Notre diplôme maintenant, depuis 2 ans, c'est reconnu par l'État. Moi, quand je l'ai passé, c'était pas encore fait, mais depuis un an,
d'accord.
Madame Aliota s'est battue. Et c'est
est sophrologue, c'est un titre, c'est un diplôme.
Voilà, mais celui de Madame Aliota, celui qu'elle propose aujourd'hui, est reconnu par l'État. C'est déjà très bien, parce qu'elle s'est battue et elle se bat. Par contre, c'est pas remboursé par la Sécurité sociale. D'accord. Mais il y a certaines mutuelles qui le remboursent. Il faut, c'est selon le contrat d'accord. que vous avez auprès de votre mutuelle.
Il faut contacter sa mutuelle et vérifier s'il y a des
remboursements. Et de plus en plus de mutuelles acceptent les remboursements. Par contre, il y a certaines pathologies qui sont lourdes. Les mutuelles, comme elles les remboursent, elles peuvent rembourser aussi les séances de sophro parce que ça apporte une détente d'accord. et puis un travail sur soi, comme les acouphènes, la polyarthrite, la fibromyalgie, enfin toutes ces maladies qui sont très lourdes et certains cancers aussi. On accompagne dans ce genre.
Oui, j'avais entendu dire que certains médecins préconisaient avant une opération de la sophrologie. Est-ce que vous l'avez fait ou est-ce que vous en avez entendu parler ?
Moi, je l'ai faite sur moi-même.
D'accord. Oui. Pensez que ça amène un plus ?
Oui, moi je me suis préparée mentalement pour mon opération du genou parce que moi je voulais bien être opérée du genou mais récupérer ma souplesse et puis pouvoir marcher.
Toutes ces inquiétudes, bien sûr. Tout à fait.
Donc j'ai travaillé là-dessus. Quand je me suis rendue à la clinique, j'étais sereine. J'étais déjà tellement bien sereine que je n'ai même pas senti quand ils m'ont fait la piqûre. Quand je me suis réveillée, je croyais que je finissais ma sophronisation, mais non, c'était déjà l'opération finie. Et quand j'ai fait la rééducation auprès du kinésithérapeute, je n'ai pas eu besoin des béquilles. J'ai remarché assez rapidement, et puis les séances de kiné, je les ai faites, mais voilà, parce que j'ai fait la préparation mentale. C'est comme les sportifs. Comme les sportifs, quand ils veulent un résultat, ils se préparent mentalement, parce que ce n'est pas le tout de se préparer physiquement. Comme beaucoup de sportifs, ils échouent parce qu'ils ont la peur, ils ont le stress, ils ont l'angoisse. Et comme ils sont submergés par ces émotions, ils ne savent pas comment gérer ce stress et ils échouent. Et il y en a d'autres, comme les navigateurs en solitaire, et ils se préparent mentalement pour pouvoir récupérer de la fatigue, du sommeil. Ils se préparent et ça leur permet d'atteindre leur objectif. Et ben c'est comme la sophrologie les aide, les accompagne. Et ben comme toute préparation mentale, et ben la sophrologie les aide aussi bien les sportifs que les préparations que mentales pour un examen, pour une opération.
On dit qu'en France, les Français sont de gros consommateurs d'antistress.
D'anxiolytiques. D'antidépresseurs.
Est-ce que la sophrologie ne serait pas justement une médecine douce qui permettrait de diminuer un petit peu cette...
Ce n'est pas une médecine. Nous ne sommes pas médecins. Nous sommes thérapeutes. Ah oui, nous sommes là pour accompagner les personnes. Mais nous ne sommes pas médecins. C'est les médecins qui prescrivent les médicaments. Si les personnes se sentent dépressives, nous pouvons les accompagner, leur apprendre à reprendre confiance, à gérer leurs émotions, parce que souvent c'est les émotions. Et c'est quoi les émotions? C'est que dans le mental. Et le mental, c'est quelque chose, on est toujours dans nos pensées. Et le fait de se détendre, d'apprendre à reconnaître ses émotions, on apprend à relâcher, à lâcher prise. Et en même temps, être plus à l'écoute de son ressenti corporel et le mental nous permet d'être en vacances pendant ces séances. Et plus il est en vacances, et plus on est dans ce qui se passe dans son corps. Et ça permet aux personnes dépressives de reprendre goût à la vie. Avec les goûts, en prenant contact avec leurs sens. Par exemple, quand vous vous levez le matin, quand vous regardez le ciel, par exemple, vous êtes présent dans ce qui se passe ici et maintenant. Vous vous concentrez sur ce qui se passe aujourd'hui. Plus vous êtes concentré avec ce qui se passe aujourd'hui, vous êtes à l'écoute de ce qui vous ressentit. Et le mental, lui, eh ben, il est mis en vacances, au repos. Le mental, c'est fait pour penser.
La durée de vos séances, c'est de combien?
La durée, ça dure une heure.
D'accord.
Pour les adultes. Pour les femmes enceintes, ça dure plus longtemps parce que les femmes, quand on attend un bébé, on ne peut pas se mouvoir aussi rapidement que les enfants. Et puis, comme nous, en temps normal. Et sinon, ça s'adapte à tout le monde. D'accord. Ça s'adapte aux personnes qui ont un handicap lourd, parce que des fois, les personnes qui sont alitées ne peuvent pas bouger. Nous nous adaptons à toutes les situations.
D'accord. Vous vous déplacez aussi sur le...
Je me déplace aussi chez les personnes.
D'accord. Et est-ce qu'il faut un environnement particulier? On met une petite musique, une petite bougie, je ne sais pas.
Non, moi, mes séances, il n'y a pas de bougie, il n'y a pas de musique. La personne est à l'écoute de ce qu'elle...
De son propre corps.
Propre corps. Elle est à l'écoute de son corps, de ses ressentis. S'il y a des bruits à l'extérieur, elle apprend à les mettre de côté. Parce que dans quelques situations que vous soyez, vous ne pouvez pas pratiquer la sophrologie n'importe où. Le but, c'est d'avoir des outils, de pouvoir vous en servir. Comme si, par exemple, vous êtes dans la voiture, puis vous êtes dans un environnement bruyant où vous êtes... Bon, amende, il n'y a pas. Mais dans des embouteillages.
Ensuite, des fois, il y a des embouteillages.
Ah oui, oui, ça arrive. Hein.
Ouais.
Oh, ben, par rapport à Bordeaux, non. Certaines régions parisiennes.
Ouais, mais le stress peut être le même.
Voilà, hein. Oui.
Parce que quand on n'est pas habitué.
Quand vous sortez de votre travail aussi, quand vous avez eu un stress, ça ne s'est pas bien passé avec vos collègues, eh bien, vous rentrez dans votre voiture, vous prenez quelques respirations, vous soufflez, vous relâchez les tensions. Vous prenez votre véhicule, vous repartez chez vous, et puis voilà.
Très bien.
Alors, 20 minutes de sophrologie, ça équivaut à quoi?
À une heure, à 2-3 heures de sommeil.
D'accord, mais ça ne remplace pas le sommeil quand même.
Ah non, 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 le sommeil, quand vous avez sommeil, il faut dormir.
Voilà.
Voilà.
Alors, ça, c'est ça. À bon entendeur, salut. Une fois que vous avez mangé, si vous avez sommeil, dormez, n'allez pas au boulot.
Non, non, mais disons qu'après les repas, c'est vrai
que. Ou dormez au boulot, à la rigueur, si vous le souhaitez.
48 FM, une radio de service public, faites la sieste.
Mais de plus en plus d'entreprises proposent la sieste. Proposent des séances de sophrologie de 20 minutes. Ça permet aux personnes d'être plus détendues.
Ne dites pas ça ici à la radio. Notre collègue Ludo, on lui a mis un canapé dans les nouveaux locaux et je pense qu'il va faire la sieste. Quoi.
Mais disons que la sieste, c'est bien. Oui, du c'est moment bien. Qu'elle dure, vous la programmez 10 minutes.
Qu'elle dure pas trop longtemps.
Si vous la programmez 10 minutes, 20 minutes, vous pouvez revenir à votre activité professionnelle. Vous êtes détendu, vous êtes relâché physiquement et puis vous repartez pour une journée.
Ludo va être deux fois plus productif.
Ah ouais, wow. C'est incroyable. On est super contents.
Il nous donnera, donc au lieu des initiales des gens, il nous donnera tout le prénom la prochaine fois. Ah, vous savez tout de la préparation de notre émission comme ça.
Bon, en tout cas, merci beaucoup.
Merci.
Merci de vos informations. Vous voulez passer une petite annonce peut-être ?
Oui, bien sûr, au contraire. J'en profite.
Et oui, tout à fait.
Ma pause zen. C'est un moment de détente pour se retrouver sur vous-même. Ce sont des séances de groupe, parce que les séances de groupe sont moins élevées, à un coût moins élevé que des séances individuelles. Vous pouvez venir me rejoindre à Saint-Alban le mercredi de 18h à 19h, la salle des associations au dojo, où là vous êtes bien, la salle est chaude, vous êtes sur des tatamis. Vous pouvez venir avec une couverture, des chaussettes, un pull au vert. Parce que la sophrologie, c'est un moment de détente et de relâchement musculaire. Et comme le rythme cardiaque est bas très lentement,
une baisse de
température, donc le corps se refroidit. Et pour bien apprécier la séance que je vous propose, venez avec une couverture, c'est plus agréable. Et je suis aussi à Marvejols le jeudi de 16h à 17h à la salle Goutel, près de la maison de retraite La Collagne.
Très bien.
Eh bien, merci.
Je vous remercie à vous tous.
On va faire maintenant une petite pause musicale. Hein, voilà.
Qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter ? Ah, on ne sait pas.
C'est Paris Combo, il paraît. Voilà. Cool. La programmation de Chewbacca local.
Dans mon antre, où l'on entre sans frapper, quelqu'un a pris l'escalier sur une petite idée de colimaçon. Il était maçon, il avait les mains tendres, et de quelle façon il m'a bien fait comprendre que de tous les meubles j'étais la voisine qu'il avait le plus envie d'aimer. Alors j'ai dit merci. Merci beaucoup, mais voyez-vous, je viens d'emménager dans cet appartement où je vis seule tout simplement. Mais au même moment, j'ai pensé. Tam 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 tam. L'amour a frappé à ma porte. Tam 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 tam. J'ai ouvert que le diable m'emporte. Tout mon squelette est ravi. Et ça, je l'emporte au paradis. Oh, mais Seigneur. Oh oui, oui, Seigneur. Je m'agace, pour l'heure il faut que je ressasse tous mes sentiments égarés, mes poules oubliées, mon ressort abîmé. Et oui, Seigneur, il faut que je m'agace, pour l'heure il faut que je ressasse tout mon squelette en entier, mes plaies non suturées, mon cœur isolé. Votre amour tombe
tabadam 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 tam tabadam 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 tam. L'amour a frappé à ma porte. Tabadam tam tabadam 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 tam. J'ai ouvert que le diable m'emporte. Tam tabadam 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 tam tabadam 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 tam. Tout mon squelette est ravi. Tabadam tam tabadam 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 tam. Et ça je l'emporte au paradis. Je l'emporte au paradis.
Alors, on se retrouve donc pour ce mag. Et justement, c'est très bien, nos auditeurs sont à table. Donc, on vous souhaite un bon appétit. Et on va vous
excellent
titiller vos papilles, justement, en vous parlant avec notre nouvel invité, donc Monsieur Julien, du beurre que vous avez conçu, développé et que vous nous proposez aujourd'hui. Et des beurres, puisqu'en fait, on en a 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 beurres à goûter, là, que vous nous avez apporté.
Une petite dégustation, hein, sympa.
Alors, Nico, Ludo, j'allais dire. Nico, tu as goûté quel beurre ?
J'ai goûté le fleur de sel.
Fleur de sel, voilà. Et alors ?
Mais je trouve très fin au goût.
Un régal pour les papilles ?
Ouais. Un régal pour les papilles.
Alors, c'est bien parce qu'on va tous pouvoir goûter, ça c'est cool. Mais avant, je vais poser une question à notre invité, comme ça après je peux goûter moi aussi. Donc, racontez-nous un peu cette aventure. Qu'est-ce qui vous a. Qu'est-ce
et
qui
d'où
vous
c'est
a.
Parti
voilà,
aussi,
d'où c'est peu. Parti. Qu'est-ce qui vous a donné au Chastel Nouvelle ? Vous ne faisiez pas de beurre et puis vous vous êtes lancé. Comment ça. Démarrer tout ça.
Effectivement, l'aventure au Chastel Nouvelle a démarré il y a quelques années, en 2008, par la fabrication des yaourts, oui. Les yaourts de marque Duo Lozère, qui sont maintenant relativement connus.
Oui.
La gamme a évolué sur plusieurs parfums depuis. La seconde étape de l'aventure, ça avait été la fabrication de fromage, qui avait démarré l'année dernière. Et l'idée, c'est toujours d'optimiser, d'une part, l'utilisation des locaux de fabrication, et d'autre part aussi de trouver toujours des gammes de produits complémentaires à ce qu'on fait déjà, sachant que notre philosophie, c'était quand même plutôt de voir sur le département qu'est-ce qu'on pouvait amener comme complément de fabrication, mm-hmm. qui ne soit pas en concurrence et frontalier avec d'autres productions déjà présentes. Alors ça avait été le cas pour les yaourts, pour les produits frais au départ, pour les fromages également, dans la mesure où ces fromages-là étaient fabriqués il y a quelques années sur le département. Mais de par la restructuration de l'industrie laitière, ils avaient disparu du marché, donc oui. On les avait repris. Et puis, le beurre très peu présent également en fabrication sur le département. Et l'idée, c'était un complément de gamme.
D'accord. Alors ça, c'est de votre point de vue, mais vous vous êtes associé avec quelqu'un qui venait de Belgique.
Alors effectivement...
Monsieur Plaquette.
Ça nous fait rêver.
L'accélérateur, c'était Lionel
cette
Plaquette qui avait sûrement un homme déjà prédestiné pour ce type de produit.
C'est un sportif de haut niveau, hein, parce qu'il a des plaquettes de chocolat.
Ah, je n'ai pas vérifié. Mais...
pas les plaquettes de beurre.
Donc c'est vrai que Lionel Plaquette, qui est un agriculteur à la base en Belgique,
d'accord.
qui transformait déjà sa production et est spécialisé en fabrication de beurre en Belgique, était à la recherche de nouveaux potentiels commerciaux et également de transformation. Alors il avait essayé d'investir le marché français, mais avec du beurre belge, ça ne semblait pas évident.
Oui.
Il n'était pas forcément toujours bien reçu. Ce qui fait qu'il a entamé des démarches pour trouver des partenaires en France pour faire avancer son projet. Et au cours d'un salon, le CIAL, l'année dernière, il a rencontré donc les techniciens de Lozère Développement, mmh. Qui connaissaient notre volonté au fromager de Lozère de développement et qui du coup nous ont mis en relation. Donc les premiers contacts ont eu lieu il y a un peu plus de un an.
D'accord.
Et lui, cherchant un outil de transformation en France pour développer la vente de ces beurres de marque Plaquette sur la France. Et nous étions en recherche de complément de gamme et d'optimisation de l'utilisation de notre outil de fabrication.
D'accord, mais avec des laits lausériens, parce que du coup, là, j'ai presque l'impression que vous parlez de lait belge. Non,
c'est alors, oui, ça, c'est très important de rappeler ça. La recette de fabrication, c'est-à-dire le choix des ingrédients, des arômes, et puis la technologie, elle a été mise au point par Lionel Plaquette en Belgique. Donc, le process, il est belge, on va dire.
D'accord.
Mais c'est un brevet, là que...
Comment ?
C'est un brevet, donc
non, c'est des marques qui sont déposées.
D'accord.
À l'INPI, mais il n'y a pas vraiment de brevet.
D'accord.
Mais par contre, bien sûr, la matière première et les fondations de ce projet, c'est toujours utiliser de la matière première locale.
D'accord.
C'était vrai pour les yaourts, c'est vrai pour le fromage et c'est vrai aussi pour le beurre. Le point commun et le point qui a fait qu'on s'est rapidement bien entendu avec Lionel, c'est, je crois, un peu notre volonté d'un côté et de l'autre de vouloir valoriser les productions locales de nos producteurs. Donc lui, il le fait en Belgique avec de la crème belge et du beurre belge. En Lozère, il n'était pas question de faire venir de la crème d'ailleurs.
D'accord.
Ça aurait été un peu... Ouais.
Eh ben oui,
voilà.
Non, mais voilà.
Un peu dommage, quoi.
Donc, d'autant plus qu'on a la chance d'être dans une région laitière où on a une matière première de très bonne qualité, avec donc des troupeaux qui sont élevés à l'herbage, en altitude...
Ce qui n'est pas le cas en Belgique.
Alors, l'herbage, ça dépend un peu du choix des cultures des producteurs. Je connais moins la typologie des producteurs belges. Ce que je sais par contre, c'est qu'en Lozère, et notamment pour les prairies qui poussent en altitude, on a toujours une flore qui est beaucoup plus riche et qui est différente de celle de vallée, surtout les prairies naturelles, les pâtures. Et on retrouve directement les arômes et le goût dans le lait et encore plus dans le beurre. Quand on a la chance d'avoir cette matière première, c'est bien de pouvoir la valoriser.
Donc sur le process, en fait, il vous a mis en œuvre sur le plan local ce procédé pour fabriquer ça.
Tout à fait, oui.
Donc là, vous êtes associé avec lui. Et comment se fait la vente après ? Donc c'est chaque structure, ça passe par lui, il y a des royalties qui lui reviennent.
C'est vrai que nous, le réseau commercial en place qu'on avait sur Fromager de Lozère, on l'a activé immédiatement en proposant à tous nos clients les beurres qu'on s'est mis à fabriquer, sachant que la volonté aussi, c'est de vraiment d'explorer d'autres pistes commerciales que nous n'avons pas encore trop explorées sur Fromager de Lozère, c'est-à-dire tout ce qui est restauration haut de gamme. Restauration collective, les épiceries fines, les crémiers fromagers. C'est une cible qu'on a peu travaillée jusque-là, puisque notre gamme Duo Lozère est plutôt diffusée en grande surface.
D'accord.
Et le travail qui reste à faire, c'est de développer les ventes sur ce nouveau créneau commercial. En tous les cas, c'est ce créneau commercial que Lionel utilise en Belgique et qui marche très bien. Il a réussi à se faire un nom dans le réseau de la restauration haut de gamme. Et notre objectif, c'est de pouvoir proposer ce beurre sur la même typologie de clientèle en France.
Et du coup, vous allez vous structurer commercialement parlant, parce que est-ce que vous avez les moyens de faire la promotion, par exemple, sur la région parisienne ? Est-ce que du coup, vous allez...
Alors, on a quelques partenaires commerciaux en région parisienne qui développent déjà la vente de nos produits. Sur Fromager de Lozère, on est trois associés et un des trois associés a une agence commerciale. Et son rôle dans Fromager de Lozère, c'est de travailler exclusivement sur la partie commerciale. Donc ça va être aussi une de ses activités prioritaires de développer la vente des beurres, en plus de la gamme déjà actuelle. Et Lionel, qui est associé donc sur le projet beurre, va développer la vente sur le réseau restauration haut de gamme en France. Puisqu'il ne sera pas à la production. C'est moi qui serai en charge sur l'atelier du Chastel de la fabrication.
Donc pour vous, ça a nécessité quelques investissements supplémentaires ou pas ?
Oui, bien entendu, puisque c'est du beurre de baratte, il faut le préciser. Il y a plusieurs types de beurre qui peuvent être fabriqués. Ouais. Donc on est resté sur la méthode traditionnelle à l'ancienne.
Donc une baratte, en fait, c'est un récipient qui tourne ?
Oui, pour résumer la situation, c'est un récipient avec des hélices qui met donc en mouvement la crème au départ. Et qui, à force de barattage, va provoquer la transformation de la crème en beurre. C'est une opération qui va nécessiter, alors selon la crème, entre 10 minutes et demi-heure.
Et qui demande aussi peut-être après de sortir le petit lait. Enfin, je ne sais pas comment vous l'appelez.
Alors la première partie liquide qui sort, c'est le babeurre.
Le babeurre, voilà, c'est ça.
Qu'on pourrait éventuellement récupérer pour en faire des fabrications spécifiques. C'est pas la priorité, mais ça viendra peut-être à terme. Et ensuite, on lave le beurre pour extraire le maximum d'humidité du beurre. Donc on le lave jusqu'à ce qu'on ait une eau claire qui sorte de la baratte. Et à partir de ce moment-là, le beurre est prêt à être conditionné.
D'accord. Donc après, il est conditionné. Alors là, c'est vrai que on se disait que le conditionnement était peut-être particulier, hein, parce qu'on n'a pas trop l'habitude de voir du beurre, mais ça se rapproche plus de ce que faisaient nos grands-mères à l'époque où on mettait, où on taillait la motte de beurre, quoi, un petit peu. Hein. C'est une boule de beurre, en fait, ce que vous
probablement, puisque on a voulu aussi limiter les équipements. Donc finalement, toute la gamme qu'on a mis sur le marché aujourd'hui, c'est des beurres qui sont conditionnés à la main. Ça veut dire qu'il s'agit de peser la portion, puisque les beurres aux arômes ou aux épices sont des beurres de 100 grammes. Oui. Donc simplement, on pèse la portion et ensuite, on lui donne la forme souhaitée. Les premières fabrications ont été faites de façon très artisanale. Donc pour les beurres de 100 grammes, ça a été...
Oui, mais en même temps, je trouve que ça correspond aussi un petit peu à...
Au côté haut de gamme, moi, je trouve.
Au côté haut de gamme et à l'image qu'on a du beurre et de la fabrication artisanale. Je trouve que d'avoir des beurres moulés, etc., aujourd'hui, tout le monde le fait. Donc,
alors, parce que nos auditeurs...
Il n'y a pas la forme d'une plaquette.
Voilà, nos auditeurs ne les voient pas, mais donc, je vous ai dit tout à l'heure, donc je vais quand même vous les citer. On a un beurre de baratte à la truffe, un au citron et poivre vert.
Ah tiens, j'ai goûté la truffe.
Là, ail et fines herbes.
On voit la truffe.
Ah bah tiens, voilà. Si. Oignon, gingembre. Ah, évidemment, c'est les classiques direct, hein. Beurre doux et beurre salé. On a un beurre à la fleur de sel et puis celui que Nico avait déjà embarqué, échalote et estragon.
Donc, ça veut dire qu'on n'a pas mangé.
Qui sont donc effectivement cette gamme. Ils sont présentés donc certains en petits boudins, là, en petite motte.
Ouais, en petit paquet,
boudin, ouais. Et d'autres. Mais alors moi, ce que je trouve sympa et qui justement sur la table, je me dis que ça fait vraiment joli, c'est que sur certains, on a la forme du moule avec une espèce de petite fleur. Et du coup, avec ce petit emballage papier, les différentes couleurs, c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir un produit, tout à l'heure tu disais, comme, un peu comme les grands-mères, mais artisanal en fait. On retrouve ce côté.
Ce sont des beurres qui sentent, c'est-à-dire qu'il y a une vraie odeur, parce que quand on sent le beurre aujourd'hui, on sent rien. Là, on sent vraiment, on sent la matière grasse, enfin, je ne sais pas si ça sent la matière grasse, mais ça a une odeur de crème.
La matière grasse est un support d'odeur. D'ailleurs, c'est pour ça que tous les beurres sont emballés dans des papiers cellophane.
Oui.
Parce que si vous laissez deux beurres de parfums différents à côté de l'autre, les parfums vont finir par se mélanger.
Échalote, là, effectivement, on peut penser que...
Donc, l'échalote, moi, j'ai goûté. Peut-être Sandrine...
Oui, j'ai goûté.
Dire un petit mot.
On sent bien le goût prononcé, mais sans trop. C'est original et on retrouve vraiment une sensation proche du terroir, gastronomique, authentique. Moi, j'aime beaucoup l'emballage, étant sensible au développement durable, donc pas de plastique.
Voilà, mais oui, mais
que ça soit utile. Donc, réduction au niveau des ordures ménagères. Un petit papier, c'est facile aussi à recycler, plutôt que trouver tous ces produits qui sont emballés, suremballés.
Ça a beaucoup de parfums, hein. C'est vrai que vos beurres ont beaucoup de parfums. Là, je suis en train de goûter en direct.
Voilà. La truffe.
Le beurre à la truffe. Alors, il est doux.
Il reste sans voix.
Je suis étonné par les saveurs qu'on peut trouver dans des beurres. Voilà. Que ça diffuse vraiment beaucoup. On retrouve bien le côté de la truffe, même si je n'en mange pas souvent.
Donc vu que nos auditeurs n'en peuvent plus,
comment est-ce qu'on fait pour se procurer
ces beurres justement? Où est-ce qu'on peut les acheter?
Alors ces beurres, comme je disais tout à l'heure, les beurres sont présents chez nos clients habituels, c'est-à-dire en Lozère, dans toutes les grandes surfaces, chez certains épiciers de village également, chez des crémiers fromagers. Donc on les a proposés chez tous nos clients. C'est vrai qu'ils sont sortis juste avant Noël. On aurait préféré les sortir encore un peu avant, puisque c'est des produits pour certains qui sont plutôt festifs. Ouais. Mais bon.
Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ces beurres, par exemple?
Alors c'est vrai qu'avec ces beurres, notamment
parce que c'est des beurres de cuisine aussi,
qui sont aromatisés, on peut les déguster en toast, comme vous êtes en train de faire. Le citron poivre vert, par exemple, se prête très bien au saumon sur des toasts. Mmh. Et après, il y a toute la partie cuisine, c'est-à-dire qu'ils peuvent être utilisés en cuisine et ça peut être un ingrédient facile à utiliser pour réaliser finalement des sauces avec des goûts.
Vous imaginez là quelques cèpes?
Oui, mais avec.
Revenu avec un beurre.
Avec une facilité d'utilisation, parce qu'en même temps, on va pouvoir l'utiliser pour faire la cuisson et puis pour ramener les goûts qui sont présents par les.
Ou faire des sauces.
Voilà.
Alors, il y a le beurre à la truffe, mais il n'y a pas le beurre au cèpe, par exemple.
Pas encore, mais pourquoi pas.
Ça peut être une idée.
Peut être une idée, effectivement.
Là, ça fait très losérien, du coup, effectivement.
Eh bien, ce sont de bonnes nouvelles, ça. Que la Lozère voilà, trouve des partenariats européens et qu'elle puisse développer comme ça de nouveaux concepts. Ça vous inspire quoi, en fait, d'aller beaucoup plus loin ?
Ben c'est vrai que nous, on a toujours essayé de travailler un peu dans l'innovation. Dans l'innovation et dans la recherche de nouveaux produits. On est dans une région géographique où il n'y a peut-être pas une tradition très importante d'utilisation de ces beurres. Donc, ça nous laisse à penser qu'il faut aussi qu'on fasse des efforts pour faire connaître ces nouveaux produits. Probablement qu'on soit capable aussi de fournir des fiches d'utilisation de ces produits. Parce qu'un certain nombre de clients qui ont déjà goûté ces beurres nous disent « Mais comment peut-on les utiliser ?»
C'était une de vos questions. Oui, bien sûr.
Et je crois qu'il faudrait qu'on arrive à trouver des partenariats avec nos distributeurs, avec des chefs cuisiniers peut-être, pour élaborer des fiches d'utilisation de ce type de beurre.
Bah nous, on peut lancer un petit appel. Nous, on a un Facebook à la radio. On peut demander aux gens qu'est-ce que vous feriez. Moi, dans notre émission du jeudi, on teste très souvent les recettes. Voilà, moi, je vais lancer un petit challenge. Allez, proposez-nous des recettes avec ces beurres. Je vais essayer moi et puis on vous les soumettra. Vous nous direz si ça peut vous aider. Ouais, après tout, on lance le challenge et puis on verra bien.
Voilà, sachant qu'on a travaillé en partenariat aussi avec le lycée Notre-Dame. On a une stagiaire, Andrea, en ce moment sur l'atelier qui a commencé lundi. Et son premier objectif qu'on lui a fixé, c'est de prendre rendez-vous avec tous les chefs hôteliers du département pour
faire
proposer
des dégustations,
ces produits, pour faire des dégustations et peut-être pour trouver ce type de partenariat à l'utilisation de ces beurres.
Oui, c'est vrai qu'on a envie de les manger sur du pain quand même. Hein. Je reconnais que.
Bah, je pense qu'au moins la première découverte.
La première découverte. Oui.
Moi,
voilà.
ça me rappelle très souvent mon enfance où mes parents en fait nous faisaient le matin des tartines grillées, ce qui a un peu disparu, je trouve, chez les consommateurs.
Les tartines de pain.
Les tartines de pain grillées, hein, qu'on faisait donc dans un grille-pain simplement. Hein. Et après, on y mettait. Donc moi, je venais un petit peu de Vendée, de Bretagne, là où il y a quand même un peu de beurre. Hein. Notamment du beurre salé, et on faisait des tartines de beurre salé, et de retrouver ces saveurs, ce goût, alors avec un fond de confiture à la figue ou à la cerise.
C'est
ou,
pas très vendéen, ouais. Ça.
C'est excellemment bon, et rien ne remplace ça. C'est-à-dire, ce goût, et même quand on le fait déguster aux enfants, en fait, ils reviennent au pain grillé. D'abord parce que quand ils se lèvent, le pain, son odeur grillée, etc., ça éveille les sens. Et puis le beurre et ce rapport au beurre, en fait, rien ne le remplace. C'est un gâteau ne remplace pas du tout ça, quoi. C'est vraiment des saveurs très, très spécifiques. Je trouve que peut-être aussi de dire, à un certain moment, que le matin, bah, au lieu d'acheter des gâteaux remplis de colorants et de conservateurs, voilà, acheter un bon pain amande, parce qu'il y a quand même de très bons boulangers, voilà. Griller son pain avec un beurre comme ça, qui prête peut-être un beurre, alors peut-être pas un beurre avec une confiture dedans, mais je sais pas, peut-être un beurre doux ou un beurre salé... Voilà, ou gingembre. Et de goûter ça, c'est aussi une bonne idée de petit déjeuner le matin.
Oui, tout à fait. C'est vrai que ce que vous avez dit, c'est retrouver un peu les goûts à l'ancienne. Un des meilleurs compliments qu'on peut nous faire, c'est quand un client ou un consommateur nous dit « Je retrouve le beurre de ma grand-mère » ou « Je retrouve le goût du yaourt de ma grand-mère ».
Voilà,
pour
ça.
Nous, c'est vraiment un compliment parce que ça, on essaye aussi de remettre au goût du jour un peu ces recettes à l'ancienne qui ont tendance à se perdre. Où les goûts sont plutôt lissés dans les produits industriels. Et nous, on a notre place sur ce créneau-là de produits artisanaux et qui rappellent un peu les goûts qu'on a tendance à perdre aujourd'hui. Quoi.
Oui, puis il y a une plus-value. Puis je trouve que c'est aussi de marquer l'identité d'un territoire quoi, à travers sa gastronomie et ses poignées de qualité. Alors c'est vrai qu'à la base, il y a le lait quand même. Donc il faut rester sur du lait de très bonne qualité pour avoir derrière un bon beurre.
Oui, tout à fait. Et on rejoint ce qu'on disait au début de notre échange, c'est-à-dire qu'on a on a la chance d'avoir un lait de très bonne qualité qui aujourd'hui a tendance à être banalisé parce qu'il est souvent récolté sur place mais transformé ailleurs dans des produits qui reflètent pas forcément la typicité et puis l'origine de la matière première. Donc on a cette chance-là d'avoir cette matière première à proximité et à nous de savoir la valoriser.
Très bien, bah merci beaucoup en tout cas de nous avoir fait découvrir. On espère que tous nos auditeurs vont également découvrir ces beurres, ces yaourts. Et Nico, tu nous proposes une petite virgule musicale ?
Une petite virgule avant, et puis après un petit morceau,
les deux.
Ouais, les deux.
Mais on sait pas quoi.
48 FM Le Mag.
Voilà, et donc on va continuer avec Norah Jones.
FM Le Mag.
Aurélie, qui a la bouche pleine, voilà. Pleine de pain et de beurre.
Ne peut donc pas parler, puisqu'elle goûte le beurre.
Voilà, juste peut-être pour terminer cette partie du magazine, quels seraient vos besoins aujourd'hui en termes d'investissement ou de commercialisation? Qu'est-ce que vous attendez?
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a acquis les investissements nécessaires à la transformation. Il s'agit maintenant vraiment de proposer nos produits au maximum de clients et via les consommateurs finaux. Donc nous, on voudrait vraiment maintenant développer nos ventes sur des nouvelles cibles de commerciales qu'on n'a pas pu toucher jusqu'à aujourd'hui parce qu'on n'avait pas forcément le produit adapté.
Les épiceries fines,
les crémiers fromagers.
Donc un appel aux crémiers fromagers de Lozère.
De Lozère, de la région, aussi, de la région que... parce que vraiment la cible c'est quand même aussi d'abord département et région.
Ouais.
On est présent sur le Gard et l'Hérault chez quelques clients distributeurs, mais il y a sûrement aussi un développement à faire à ce niveau-là. Donc appel à tous les restaurateurs, à tous les cuisiniers, à tous les chefs étoilés qui voudraient bien essayer nos produits.
Est-ce que vous avez pensé à le faire labelliser Sud de France, votre beurre?
C'est fait.
Très bien.
On a mis en avant les deux marques qu'on a la chance d'avoir, c'est-à-dire d'abord la marque de Lozère pour l'identité lozérienne, mais aussi la marque Sud de France qui nous accompagne et qui est un très bon partenaire pour le développement et faire connaître nos produits.
Ah ouais, très bien. Et donc si on est juste un client lambda, comment on se le procure? On le trouve quand même en supermarché?
On le trouve chez les clients qui distribuent déjà la gamme du Holozer, mais on peut le trouver aussi directement à la fromagerie au Chastel pour ceux qui ont envie de faire
de la vente directe,
le déplacement.
Ah,
bah
super.
Donc voilà, la vente internet, on y pense, mais c'est le problème logistique après qui n'est pas évident à résoudre pour les produits frais.
Très bien.
D'accord, mais bah, nous, on peut donc monter vous voir au Chastel pour aller acheter les produits en direct.
Avec grand plaisir.
Ah, bah, voilà. Super.
Et voilà. Si vous pouvez trouver aussi toutes ces informations sur 48FM.
Bah oui.
Voilà, on va se faire relais, en tout cas, toutes ces initiatives positives que nous aimons. Voilà, on essaie de les partager avec vous. On est très content de vous avoir accueillis. Merci encore pour cette dégustation.
Merci à vous de m'avoir reçu.
Voilà, on se fera l'écho un petit peu de toutes ces découvertes, de tous ces partenariats. Ce qu'on retient, c'est aussi ce partenariat européen qui est intéressant, entre deux pays qui n'ont pas forcément les mêmes... qui ont quand même beaucoup de complicité dans beaucoup de domaines, celui de la culture, parce qu'on aime beaucoup les Belges, mais aussi voilà, sur ces partages-là, je trouve que ce sont de très très bonnes initiatives. Encore merci.
Merci.
Ah, et ben, hop, un petit blanc entre nous, mais c'était pour donner la parole à madame, voilà, je vais jamais y arriver, Sandrine Gimbert, je vais dire Sandrine, moi aussi, voilà. Donc, vous représentez l'association des parents d'élèves du collège de Saint-Privat. Et en fait, vous venez nous parler d'une opération que vous avez lancée de recyclage des stylos.
Oui, effectivement, depuis l'année dernière, on a mis en place donc en partenariat avec TerraCycle.
Donc TerraCycle, c'est quoi ? C'est pour nos auditeurs, c'est quoi ?
TerraCycle, c'est une idée qui est sortie d'un Américain, donc ça sort des États-Unis, rayonne sur toute l'Europe et la France, avec l'objectif de récupérer la matière première du plastique. Alors les plastiques, c'est compliqué à retraiter. Tous les plastiques ne sont pas les mêmes, mais les plastiques de certaines matières, donc à l'occurrence les stylos, feutres, un plastique spécifique, n'étaient pas jusqu'à maintenant recyclés, étaient complètement perdus. Donc TerraCycle a mis en place ce procédé et donc fait appel à des bénévoles, on appelle ça des brigades de collecte partout en Europe pour récupérer cette matière première. Donc il y a plusieurs...
Donc que les stylos pour l'instant, c'est ça ?
Alors, il y a
surtout les stylos.
Sur TerraCycle, il y a plusieurs types de collecte. Il y a ce qu'on appelle les brigades d'instruments d'écriture, les stylos et feutres. Il y a également les pompotes, les compotes à boire. Il y a les recharges à savon, les dosettes Tassimo et même depuis peu les mégots de cigarettes. Voilà, donc ils arrivent à transformer cette matière.
Il y a du plastique dans les cigarettes ?
Alors, ce n'est pas forcément sur les mégots le plastique qui est effectivement récupéré. Nous, on ne s'est pas penché sur les mégots, donc on n'a pas regardé le process de transformation. Mais effectivement, les stylos, ça nous semblait très intéressant puisque la cible... Ce sont les collégiens, les enfants,
les élèves en général.
Les familles, les élèves. Voilà. L'intérêt, il était aussi double, puisque le développement durable est vraiment au cœur des programmes au niveau du collège. Ça commence dès la cinquième. Le développement durable est très présent dans les enseignements.
Même en primaire.
Et même en primaire, voilà. Les faire travailler là-dessus, puisqu'on n'a pas... uniquement fait que collecter les stylos, on les a fait réfléchir dans la rédaction d'une lettre pour pouvoir toucher les établissements ou les structures qui utilisaient des stylos, on appelait ça donc les stylos Jovor, sur des entreprises mandoises qui pourraient donc confier les stylos aux élèves dans le but de développer la collecte en volume.
D'accord, parce que si je comprends bien en fait, on sait recycler le plastique des stylos, mais en fait, on ne sait pas les collecter.
Alors, aujourd'hui, la plupart des gens, une fois qu'ils ont leur stylo abîmé, ils le mettent à la poubelle. Voilà, ils ne savent pas où éventuellement le puriste va le mettre à la déchetterie, dans la benne tout venant. Voilà. Aujourd'hui, il y a des solutions. Voilà. Vous pouvez donc les confier dans une boîte au Collège Saint-Privat, qui ensuite attend d'avoir un volume conséquent. Il faut à peu près avoir 7 kilos de stylos, ce qui représente 800 stylos à peu près. D'accord. Et donc, on fait partir le colis à TerraCycle.
Donc, on jette tout, en fait, le stylo, mais tout, aussi ce qu'il y a...
Bouchon, l'intérieur.
Le bouchon, l'encre, voilà, effectivement.
Il n'y a plus beaucoup d'encre, un stylo qu'on jette.
Oui, mais il peut y avoir des stylos qui ne marchent pas et qui sont pleins d'encre. Voilà, donc on collecte également les ce qu'on appelle les Tipex ou les Blanco.
Les feutres, vous disiez.
Les feutres. Alors, les feutres dans les écoles primaires, effectivement, oui. On en utilise beaucoup, même à la maison si on a des jeunes enfants. Les stabilos, les gros. Pour écrire sur les tableaux.
Les marqueurs,
les marqueurs. Voilà,
les marqueurs
qui pèsent bien, hein, puisqu'en fait. Donc, les brigades de collecte sont encouragées et stimulées avec une petite dotation financière qui est de 0,2 centimes par stylo collecté. On peut donc donner cet argent à une association de notre choix ou bien la conserver pour l'association des parents d'élèves.
Donc 800 stylos, ça fait 56 ans. C'est ça ?
Oui, alors...
À peu près, quoi, 50 euros.
Oui, ouais, ouais, ouais.
Oui, ce qui est pas mal quand même.
Ce qui est pas mal, mais il faut...
Mais oui, pour 800 stylos,
beaucoup
faut...
Beaucoup 800 stylos, voilà.
Oui. Parce qu'un élève consomme combien de stylos ? Vous avez fait à peu près des études comme ça
on a
avec
fait des
enfants,
études, ouais. Effectivement. On s'est penché sur des calculs savants et complexes.
C'est une vingtaine de stylos par an, c'est ça ?
Je crois que le chiffre qui était sorti, c'était non, 5,5 stylos
ah oui,
en moyenne.
Ah oui, pas plus.
Voilà. Alors, feutre, stabilo, etc.
Ils écrivent de moins en moins.
Alors, ce n'est pas les élèves qui consomment le plus de stylos, ce sont les profs. Ouais. Voilà, bien qu'il y ait la concurrence des tableaux numériques. Ouais. Mais effectivement, le stabilo ou le feutre Velleda, il ne marche pas longtemps, il sèche. Ouais. Donc là, on en récupère beaucoup. L'intérêt, c'est que ça pèse aussi dans le carton. Donc on est bien content quand on a plein de stabilo.
Donc là, vous collectez, vous récoltez, vous envoyez donc à TerraCycle, c'est ça ?
Oui, c'est ça, à TerraCycle.
Aux États-Unis ?
Alors, la plateforme de collecte est sur Londres.
D'accord.
Oui, donc le stylo fait le tour de Londres.
Le bilan carbone, ça, effectivement, n'est pas négligeable, ouais. Mais il se peut qu'il change.
Il n'y aurait pas des solutions à moyen terme de le faire en local avec une entreprise de...
Alors, il y a des projets, effectivement,
qui
en
sont
local,
pas
même
mais...
très local.
Ouais.
Hein, voilà,
ah bah, c'est super.
Sur le département, il y a des projets, effectivement, de plateforme, de collecte. De ce
avec Environnement 48, c'est ça ?
Avec Environnement 48, voilà.
Qui est en pourparlers pour essayer
qui est en
de...
pourparlers. Là, je laisserai le dirigeant Olivier Dalle venir faire une émission spéciale.
Oui, on fera une émission là-dessus parce que voilà. Ça, c'est vraiment très, très intéressant.
Du coup, vous nous avez mis la puce à l'oreille.
Voilà.
Mais c'est intéressant que c'est vrai qu'on
lui s'est
pas...
beaucoup penché effectivement sur la question puisque le but du jeu étant comme vous du Haut-Lozère de diversifier sa gamme,
ouais.
Sa collecte, sa matière première, de créer de l'emploi.
Par contre, vous disiez que les pots de yaourt on les recycle parce que pour l'instant on les met avec les ordures ménagères.
Il faut savoir qu'effectivement aujourd'hui on sait recycler un certain type de plastique. Il y a plusieurs plastiques différents. C'est assez technique et je ne vais pas ennuyer les auditeurs avec ça. Je ne vais pas non plus leur porter à confusion dans la poubelle de tri qui est déjà assez compliquée pour eux. Mais effectivement, il y a un tri qui est fait ensuite par Environnement 48 dans les ordures ménagères au niveau des plastiques, que ce soit les plastiques des bouteilles minérales ou le plastique plus fin des pots de yaourt. D'accord. Ça reste marginal et ça va se développer.
Oui, parce qu'on en consomme beaucoup, beaucoup. Quoi.
Oui.
Enfin, je ne sais pas, sur du Haut-Lozère, si vous êtes sur un support plastique aussi.
Ben pour les yaourts.
Oui, on a les deux types d'emballages. D'ailleurs, on avait fait
pour
les produits qui nécessitent un emballage transparent, on est obligé de travailler avec le plastique. Par contre, pour les autres yaourts, on est passé au pot carton, qui n'est pas forcément encore facile à recycler, mais les choses vont sûrement évoluer. Mais c'est aussi pour tenir compte de la matière première qui sert à fabriquer l'emballage. Mmh. Et avec un pot carton, on est sur une matière qui...
Renouvelable, quoi.
Qui est déjà recyclée.
Oui, vraiment la difficulté aujourd'hui, c'est le recyclage du plastique qui est...
Mais je pense qu'il y a une vraie prise de conscience quand même, parce que les informations qui reviennent et qu'on entend, c'est que les gens prennent conscience et traitent de plus en plus leurs déchets. C'est-à-dire qu'ils font un équilibre entre ce qu'on jette. Avant, j'étais n'importe comment.
Aujourd'hui,
quand même, les gens
sont sensibilisés, mais il y a quand même des efforts.
Ça a pris beaucoup de temps.
Par exemple, le papier, 50% du papier est recyclé et retraité en France. Donc, il y a quand même du gisement à récupérer, ne serait-ce que sur le papier, que ce soit en collectif au niveau des bureaux. Il y a encore des administrations qui n'ont pas mis en place le tri du papier à côté de chez nous. Donc, c'est simple à faire.
Il y a aussi des problèmes de coût. C'est-à-dire que ça coûtait beaucoup plus cher de recycler que... Que de fabriquer
je
du
pense
papier.
Que c'est un changement aussi d'habitude. Hein. Avoir deux poubelles dans son bureau, au début on hésite, on ne sait pas où mettre le sachet de thé, mais après
on ouvre le sachet, on met les graines, on trie les grains.
La cartonnette dans le tri sélectif.
Et donc on composte aussi dans son bureau.
Oui, c'est possible.
Voilà, ben nous, on l'a mis en œuvre un peu partout. Hein. Ici, on trie les cartons, les plastiques, voilà.
Et bientôt les stylos. Durable.
Voilà, les stylos.
Et bientôt les stylos, pas fait mon
Et faire. Si on veut participer, justement, si moi, je veux vous apporter mes stylos, comment je fais?
Alors, soit vous attendez d'avoir quand même quelques stylos, oui. Hein, ne venez pas à chaque fois pour déposer le feutre au collège Saint-Privat. Donc, il y en a qui nous amènent des boîtes de Kleenex, hein, qui servent des boîtes voilà. de Kleenex cartonnées. Il y en a qui nous amènent dans des poches en plastique. Donc, vous pouvez les confier au collège Saint-Privat d'accord. directement, au secrétariat dans le hall.
Bon, bah, très bien.
Sinon, vous pouvez trouver ces boîtes dans une vingtaine d'entreprises sur la Lozère. On en discutait tout à l'heure, donc effectivement, il y en a une à la crèche municipale de Mende. De mémoire, parce qu'elles sont sur le site du collège Saint-Privat, il y a la bibliothèque de Mende, il y a la mairie, il y a les trois chambres consulaires, le Crédit Agricole, voilà, des entreprises donc, qui ont bien voulu jouer le jeu.
Et ces vous êtes les seuls à le faire en Lozère ? Enfin, en tant que collège ?
Je pense qu'il y a d'autres, il y a des écoles primaires qui le font, par contre, elles n'ont pas démultiplié. La collecte ouais. reste au sein de l'école et au niveau des parents. Nous, on a voulu le déployer sur Mende, sensibiliser effectivement les entreprises et administrations qui utilisent pas mal de stylos, et puis faire travailler les élèves puisqu'ils ont rédigé une lettre avec leur professeur de français pour expliquer leur projet. Et on souhaite aussi amener ces élèves qui ont participé à l'action visiter le centre d'ordures ménagères donc à Redondel pour leur faire vraiment ouais, prendre conscience et voir effectivement l'impact que ça peut avoir.
De toute façon, je pense que ce serait une visite presque obligatoire
tout à fait, ouais.
que tous les citoyens aillent voir, on passe leurs ordures parce que ça fait peur quand même quand on va là-haut, quand on se dit waouh, tout ça, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est énorme, hein.
Oui, puis les gens ne savent pas exactement que devient leur sac poubelle après. Il y en a encore qui croient que ben c'est brûlé, incinéré.
Quand on va se balader tout autour, en fait, on s'en aperçoit vite. Hein, parce que dans les arbres tout autour, sur les grilles, partout avec le vent, c'est infernal parce qu'il faut le stocker. Quoi. Et quand c'est stocké à l'air libre, ben, bien sûr, il y a une partie qui...
Non, mais moi, je ne pensais pas, par exemple, qu'on ouvrait les sacs poubelles pour aller trier les pots de yaourt. Ça, typiquement, moi, je...
Alors, bon, c'est un peu simplifié.
Oui, non, mais voilà, j'imaginais pas. En fait, je pensais que ce qu'on avait déjà trié, la poubelle de tout venant, quoi, elle était, effectivement, éliminée d'une façon ou d'une autre. Mais je ne me suis jamais posé la question.
Il faut inviter le SD2E voilà. Donc, à venir mais parler voilà, de l'activité du broyage des ordures ménagères.
Exactement, voilà.
On fera un petit reportage, on va se mettre à la vidéo aussi pour avoir... quelques images sur le site. Voilà, ben c'est une belle. Ça reste une belle.
Oui, parce que ça continue. Aventure, c'est que, pas voilà. une action limitée dans le temps. Donc,
d'accord. Alors, que devient en fait cette collecte ? Vous l'envoyez. Ensuite, vous récupérez.
On récupère des points. Donc, ce jour, on a fait partir 2500, grosso modo 2500 stylos depuis l'année dernière. En contrepartie, on a eu, je ne sais plus combien de points, ce qui représente, bon, c'est ridicule, hein, 33 euros, voilà, qui permettent d'aider le budget de l'association des parents d'élèves d'accord, pour financer des sorties, ouais. Notamment la sortie de Redondel, eh ben oui, voilà, payer le transport scolaire. Non.
Très bien, mais c'est
d'autres
les petites...
D'autres initiatives comme ça sur, avec, Alors, pourquoi c'est parti de l'APE et pas des enseignants directement ?
Alors, parce que c'est l'appel, enfin, l'association des parents d'élèves travaille, je dirais, en collaboration avec les d'accord. enseignants. C'est vrai que nous, on propose des projets, les enseignants y adhèrent ou y adhèrent pas. En d'accord. général, ils y adhèrent, hein, sans souci. C'est de par la philosophie, je dirais, les sensibilités des parents d'élèves,
hein,
voilà, qui connaissaient TerraCycle et qui l'ont proposé.
Très bien.
Ben merci,
belle en initiative. Tout cas,
plaisir.
Bravo.
Voilà. Les petites rivières font, les petits ruisseaux font des grandes rivières.
Les petites graines se sèment.
Puis les rivières font des grands fleuves.
Voilà. Hein. Et du coup, c'est comme ça peut-être qu'on arrivera.
Et les grands fleuves font des belles mers.
Des mers.
Voilà,
oui,
c'était la
blague du jour.
Il en faut quelques-unes. Bon, en tout cas,
merci
à nos trois invités. Cette émission sera rediffusée jeudi soir à 18h11. Et samedi à 11h, voilà. Vous pouvez aussi l'écouter en podcast directement sur le site www.48fm.org. On vous dit à la semaine prochaine.